With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Et si vous deveniez un coureur minimaliste par nécessité? Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons de running, de mode de vie sportif et de comment le sport et le mouvement nous apportent du bonheur dans notre vie. Et aujourd'hui, ce bonheur, nous allons aller le chercher en sandales. Oui, en sandales, oui, parce que j'ai de suite été intrigué par cette coureuse que j'ai découverte sur Instagram, souvent habillée en noir, short et tongs. Oui, j'ai bien dit sandales de course, mais oui, ça ressemble un petit peu à des tongs. J'ai commencé à la suivre et je l'ai alors vue courir son premier marathon, toute seule et en sandales. 42,195 km sur une petite semelle tenue par une simple lanière. Et il ne m'en fallait pas plus pour l'inviter. Mais j'ai alors découvert d'autres choses. Son approche du minimalisme qui est bien plus large, son bracelet rouge, son histoire, celle d'une coureuse passée au minimalisme après de gros problèmes de dos et des opérations. Une nouvelle preuve que la solution aux douleurs n'est pas forcément le maximalisme et les grosses semelles, mais de faire confiance à son corps. Et elle nous explique exactement comment. Nous voilà donc partis pour une sortie longue avec Elodie, en short, en sandales, ses chiens et ses projets qui vont bien au-delà de courir un marathon. Mais juste avant de vous laisser avec ma discussion avec Elodie, je vous remercie pour vos commentaires sur Apple Podcasts. Bon, en ce moment, il n'y en a pas eu. Bon, bah, c'est comme ça, je ne vais pas vous lire les derniers commentaires, il n'y en a pas eu. Mais vous savez qu'un petit commentaire, ça aide le podcast à être mieux vu dans les classements et que plus de personnes le découvrent. Merci aussi aux patrons qui soutiennent le podcast via Patreon, cette plateforme qui permet de, à partir de 1 euro par épisode, vous pouvez avoir accès aux épisodes en avance et sans pub, ainsi qu'à mon journal d'entraînement privé tous les lundis, dans lequel je vous raconte mes péripéties un peu plus en détail, et puis je vous donne aussi petites infos en primeur sur l'avenir du podcast. Et vous savez que moi, c'est ce qui me permet aussi de changer de vie, hein, tout simplement d'aller vers une nouvelle vie plus sportive. Je voudrais remercier aussi tous ceux qui partagent les épisodes et nos aventures running sur Twitter et Instagram avec le hashtag KM42podcast ou en mentionnant mon compte @BertrandSoulier. Ça permet de d'agrandir la famille, hein, de faire découvrir plus de monde et surtout de faire découvrir l'esprit du Hamsters Running Club. Oui, l'esprit du hamster qui court non pas contre les chronos, contre les autres, mais qui court pour son bien-être, pour son bonheur. Et c'est tout ce que je nous souhaite à tous, courir pour notre bonheur. En tout cas, c'est ce que fait Elodie. Tous les jours, ou presque, elle va courir et nous explique aussi pourquoi. C'est parti pour cette belle sortie longue avec Elodie et on se retrouve nous la semaine prochaine. Bonjour Elodie.
Salut Bertrand.
Comment vas-tu?
Bah écoute, plutôt pas mal.
C'est quoi que t'appelles plutôt pas mal? D'ailleurs, on va essayer de mettre une échelle. C'est quoi ton critère à toi d'être bien, d'être en forme, en bonne santé? C'est quoi tes critères?
Bah écoute, déjà je suis rarement de mauvaise humeur. Enfin vraiment, voilà, je suis quasiment toujours jovial. Mes critères, généralement une bonne course le matin au réveil à jeun. Voilà, je cours quasiment tous les matins à jeun et ça m'engage sur le reste de la journée. Et puis pour que je passe vraiment une mauvaise journée, il faut déjà y aller, quoi.
Tu dis que tu cours quasiment tous les matins à jeun. Alors attends, ça va faire bondir un de mes anciens invités, le docteur Denis Boucher, qui va dire « Courir à jeun, mais c'est scandaleux, mais c'est de la marde », comme il avait dit, tu sais, comme il est canadien et tout. Moi, je suis adepte de la course à jeun aussi, mais toi, pourquoi tu en es adepte?
Alors écoute, c'est venu sur le tard, puisqu'il y a encore un an de ça, je travaillais de nuit en fait, donc pour moi, courir le matin, déjà, c'était impossible. Voilà, vraiment, c'était un truc qui était pas du tout concevable. Et puis voilà, changement de boulot, il fallait que je case mes sorties. Et puis j'ai commencé à courir, je me lève, je pars, quoi, en fait, comme ça. Ça engage. Et puis en fait, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup beaucoup mieux, surtout quand je fais des séances de fractionnés. Voilà, parce que là j'avais une prépa marathon et du coup j'avais des séances à faire et en fait les faire à jeun étaient beaucoup plus bénéfiques pour moi et tout ce qui est problème, on va dire gastrique et choses comme ça. Du coup, c'était vraiment réglé maintenant je peux courir 1h30 tranquillement à jeun sans aucun problème.
Oui, alors on a exactement la même vision des choses là-dessus, même si après, au bout d'un moment, ça commence à tirer, moi, un petit peu sur certains. J'ai fait 2h30 cet été, ou un truc comme ça, une petite barre, ça commence à être pas mal, mais en endurance orientale, c'est passé. C'est ça qui est assez incroyable, c'est que dans cette histoire-là, c'est que ça passe. Et par contre, alors t'as dit un autre mot, te dit pratiquement tous les jours. Mais j'ai même vu tous les jours.
Oui, tous les jours. Alors là, je m'étais donné un petit défi. Alors quand je suis en prépa, bon bah comme la dernière fois, là j'avais vraiment mes séances, donc 3 fois, 4 fois par semaine. Et sinon, oui, en effet, c'est tous les jours. Là, je m'étais donné un petit défi au mois de novembre, post-confinement. Donc oui, j'ai fait, je cours tous les jours. Oui, c'est. Alors j'ai pas de, si tu veux, j'ai normalement voilà, je cours tous les jours. Depuis quelques années, j'ai quand même j'ai appris à écouter mon corps, voilà, ce que je ne faisais pas avant. Donc voilà, il y a des matins où je vais être, où je sens que je vais quand même être un peu crevée. Donc voilà, là je laisse au repos, mais oui, c'est devenu une routine quotidienne.
D'accord, mais moi je comprends hein, parce que c'est ce que j'ai fait au mois de juillet. Donc et je voulais pas m'arrêter et ma femme m'a dit mais tu vas peut-être t'arrêter de courir quand même et tout. Je lui dis bah non et tout, et en fait ce qui m'a arrêté quand même c'est que je suis allé chez l'ostéo, il m'a dit bon alors là vous êtes un peu de traviole, il faut mettre 2 jours de repos, etc. Mais j'ai vu des gars, j'ai fait un épisode cet été, et j'ai vu, il y en a alors un dénommé Raven qui ça fait 30 ou 40 ans, qui court comme ça tous les jours, et j'ai vu un Américain aussi, ça fait je crois 1000 et quelques jours, tu vois, qui dit court tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais je crois qu'il a pas les mêmes conditions de météo que nous, parce que toi en plus, et ça aura une importance pour après, pour le sujet qu'on va aborder, tu habites où?
J'habite en Moselle.
Oui, alors c'est pas le coin le plus chaud de France, surtout quand on va dire que tu cours en sandales.
Ah oui, totalement, oui, c'est vrai que là on a déjà commencé à atteindre les négatifs le matin, donc oui, en effet ça pique un peu là en ce moment.
Et donc l'Américain que je voyais, lui, tu sais, il est dans des zones un peu chaudes, etc., il a mis une paire de gants, là, il y a 2 jours, tu vois, il y a un truc comme ça, mais il court, il fait chaud tout le temps, etc. Et donc je me disais quand même, est-ce qu'on est capable de courir tous les jours, toute l'année? Ça veut dire que tu cours de nuit en ce moment tous les matins, c'est ça en fait?
Ah ouais. Oui, bah oui, du coup de nuit tous les matins. Et puis si jamais je voulais courir après le boulot, quoi qu'il en soit, du coup je courrais de nuit, quoi. Donc oui, tous les matins de nuit, puisque généralement je décolle entre 6h30 et 7h. Voilà, histoire de vraiment pouvoir caser avant la journée de boulot.
On n'a pas dit, ça fait combien de temps que tu cours?
Alors du coup, je cours. Alors j'ai couru déjà toute jeune. En fait, voilà, je faisais de l'athlée étant gamine, donc je faisais du coup beaucoup de demi-fonds, des crosses, voilà, des choses comme ça. J'ai couru énormément jusqu'à 16 ans, à peu près 16-17 ans. Après, bon voilà, j'ai eu la période adolescente où j'en ai eu un peu ras-le-bol. Pour des raisons professionnelles, j'ai aussi pas mal couru, donc du coup à partir de mes 19 ans, voilà, la vie active. Et en fait, j'ai été opérée du dos à 24 ans. D'une double hernie discale, et donc ça m'a stoppé pendant 7-8 ans quand même, quoi. Et du coup, voilà, là je cours très très bien depuis 2 ans, enfin très bien. Je cours voilà sans arrêt, voilà. Et sinon, oui, voilà, ça fait des années que je cours et maintenant je peux plus du tout m'en passer, quoi. Depuis que j'ai pu reprendre la course à pied, c'est un régal, quoi.
Alors, c'est intéressant ce que tu dis sur la hernie, parce que c'est une grande discussion qu'on a au club. On a plein de gens, nous, qui ont des hernies, qui en a certains, ils se demandent même s'ils vont pouvoir recourir. Alors toi, tu dis que t'as pu recourir derrière, etc. J'imagine quand même que c'est pas si simple que ça de revenir après une hernie. C'est quoi le passage, en fait?
Du coup, c'est très, très compliqué, puisque moi, j'ai été opérée, du coup, très jeune. Alors, au moment de l'opération, je pouvais plus du tout marcher, hein, j'étais vraiment à l'équerre. Et le souci, c'est qu'après l'opération, moi, j'ai eu des séquelles. Donc, quand j'ai pu reprendre la course à pied, donc ça a pris du temps, j'ai été suivie par un chiropracteur. Donc voilà, on a vraiment pris aussi le temps de poser les choses, voir si c'était possible, pas faire n'importe quoi. Et puis, voilà, ça, on va en parler après. Mais du coup, c'est à ce moment-là qu'est venu le passage à la course minimaliste, en fait, pour me permettre de pouvoir recourir sans douleur. Puisque quand j'ai pu reprendre, donc ma course se passait très bien, par contre au retour, j'avais énormément, énormément mal dans le dos, quoi, en fait. Mmh. Et c'était vraiment, vraiment compliqué de se dire, bah ouais, mais je vais pas pouvoir recourir le lendemain, puisque bah, j'ai encore des séquelles de la course de la veille, donc voilà. Donc le passage au minimaliste, du coup, c'est fait comme ça.
Alors, ce qui est intéressant d'ailleurs, parce que les gens ils disent, quand on a mal, quand on a des douleurs, alors qu'on est mal au genou, au dos ou partout, il faut être maximaliste, il faut des protections, il faut des grosses semelles, les semelles les plus épaisses possibles, hein, même ils disent chez Oka et compagnie. Et toi, là, tu nous dis, non, mais moi, pour mon dos, le mieux, c'était d'aller vers le minimalisme, c'est ce qui était le mieux pour éviter les séquelles, etc., et courir.
Ouais, totalement, puisque du coup, la biomécanique n'est pas du tout la même. Et du coup, cette attaque talon que tu vas avoir malgré un super amorti, des semelles de dingue, elle est très, très violente en fait pour les genoux et le dos. Enfin, moi, du coup, c'était pour le dos. Et le passage au minimalisme donc, se fait sur… c'est très long hein, quand même, ça prend du temps. Mais du coup, ton attaque médio-pied, elle l'impact dans le dos, et moi voilà, j'ai vraiment pu le constater, il est vraiment moindre par rapport à l'attaque talon, quoi.
Oui, et moi c'est le constat que j'avais fait pour mes périostites, hein, en pleine fauchée, en pleine préparation marathon, mon premier marathon, et l'ostéo m'a dit non, mais là il faut aller vers encore plus de minimalisme que ce que vous avez, monsieur. Et à l'époque, j'étais passé en Altra. Il me dit, oui, mais vous êtes des Altra, pas minimaliste. Alors, c'est un truc dont j'avais parlé dans l'épisode sur Altra, avec Sherwin de Altra, en disant, c'est vrai, hein, attention, hein, c'est que il y a plein de domaines qui jouent, hein, dans les drops, dans le minimalisme, etc. Le minimalisme, c'est quelque chose qui est propre, hein, c'est vraiment une philosophie qui est particulière. Et alors, surtout, hein, comme quand toi, on court en sandales. Alors, moi, j'ai envie de te dire, c'est quoi le parcours qui fait qu'on arrive un jour à courir en sandales en plein hiver dans les rues de Metz?
Alors le parcours, moi déjà, donc j'ai commencé en five finger. Voilà, donc je suis tout de suite passée au five finger. Et puis voilà, je suis tout le temps pieds nus à la maison. J'ai cette conception là au départ. Voilà, dès que je peux être pieds nus, tout le monde d'ailleurs dit que je suis dingue hein, autour de moi. Ils sont. Et puis les sandales, ça me faisait quand même de l'œil depuis un moment. Et bah du coup pendant le confinement, voilà, je me suis dit allez, le premier confinement, du coup je me suis dit allez, je m'achète cette paire de sandales et puis on y va. Et puis du coup, en fait tu te rends compte que le corps est une très belle machine et que malgré le froid, donc là j'ai encore couru donc au pieds nus hein, vraiment dans la sandale. En fait malgré le froid, ton corps se réchauffe, relève très vite et puis cette sensation de froid tu la sens plus. Et par contre voilà cette sensation de froid, de sentir les éléments, ça c'est vraiment, enfin c'est un pur bonheur quoi. Par contre, la pluie, l'herbe mouillée, enfin c'est une connexion en fait avec tout ce qui t'entoure finalement. Donc ça c'est un pur bonheur et à l'heure actuelle, j'ai pas l'intention de repasser au five finger, sauf si vraiment voilà on vient avoir des conditions et encore je pense qu'on verra à ce moment-là, mais je suis vraiment pas sûre.
C'est quoi la différence finalement de sensation entre de la sandale et de la five fingers?
Alors déjà en five finger, ouais, t'es déjà bien parce que tu ressens tout. On a parlé un peu en off tout à l'heure. Le moindre caillou te rappelle à l'ordre en te disant oui, tu cours en minimaliste, ma chère. et ben en fait voilà, c'est là vraiment la sensation d'avoir ton pied est encore plus libre en fait finalement. Déjà dans la five finger, ton pied il est quand même libre. Tous tes orteils peuvent bouger, enfin tous tes doigts de pied, donc voilà, ça c'est cool. Et en fait, dans la sandale, ouais, vraiment, c'est cette sensation de pas, tu sais, être engoncé dans une paire de chaussures, en fait, tout simplement, quoi. Ouais. Ça c'est un régal, quoi.
Et puis alors, je me dis, j'ai une pensée, mais à l'instant, je me dis qu'au moins, tu galères pas à les mettre.
Là, je suis au moins embêtée qu'avec les five fingers, hein. Totalement.
Non mais c'est une blague que je fais parce que la première fois que j'ai mis mes five fingers, je crois que j'ai mis un quart d'heure à essayer de mettre le premier pied dedans, mes orteils ils comprenaient pas, je voulais les faire rentrer dans des je sais pas comment on appelle ça, des petits pochons à orteils. Mais maintenant je les enfile du premier coup. Alors d'une manière assez étonnante, hein, c'est que quand je les mets, ça rentre tout seul du premier coup, ça, vraiment sans aucun problème. Mais c'est vrai que la sandale, au moins, finalement, ça se présente comment? Parce que pour les gens, il faut qu'ils visualisent à quoi ressemble une sandale. C'est quoi? Ça ressemble à une tongue en fait.
Ouais, en fait, c'est ça, si tu veux. Donc, tu as une lanière. Chez Pantasandal, tu as deux moyens, en fait, de faire ton serrage. Donc, j'ai la lanière qui part sur le côté, du coup. Mmh. Et puis, pour les gens qui, par exemple, ne seraient pas, trouveraient que ça bouge un peu ou des choses comme ça, tu peux faire un réglage avec la sandale vraiment qui va tout droit, quoi. Et puis, qui est prise de chaque côté au niveau de la cheville. Voilà. Donc, c'est vraiment. Alors, du coup. Pour le coup, l'histoire de la tongue, ça me fait sourire, puisque la semaine dernière, j'ai rejoint un groupe de coureurs du coin, là, que je connais très bien, et on était en train de se faire un petit délire dans les marches, et puis on a croisé forcément dimanche matin deux, trois groupes de trailers du secteur, et j'ai eu droit deux, trois fois, oh, elle court en tongue! Donc oui, donc c'est ça, c'est à peu près ça, en fait.
Et eux, ils étaient avec leurs grosses semelles, etc., en train de... Et toi, en minimaliste comme ça, total, c'est un espèce de... comment ça s'appelle, de contraste, en fait. Ce qui est intéressant, c'est le contraste par rapport à ce qu'on voit dans la course, ce qu'on voit même d'ailleurs dans le dans la recherche actuellement des fabricants qui vont avec les semelles carbone, qui vont avec le rebond, le ressort dans tous les sens. Et finalement, là, dans la philosophie minimaliste, on est dans un domaine où bah, le ressort, c'est de se dire que le corps est bien mieux fait que ce qu'on le pense quand on ne le met pas à contribution.
En fait, c'est ça, voilà. Tu te rends vraiment compte dans la course minimaliste que ton corps, c'est un bel outil, vraiment un très, très bel outil, qui peut s'adapter à beaucoup, mais beaucoup de choses. Après, voilà, quand tu vas discuter avec des ultra-trailers, des gens comme ça aussi, j'ai écouté ton épisode avec Taz, justement. Et là aussi, tu te rends compte que c'est des gens qui vont faire des grosses, grosses distances, mais le corps va quand même très vite récupérer. Donc, en effet, le corps, c'est vraiment un très, très bel outil. Et en course minimaliste, ben voilà, tu te rends compte. Bon, voilà, moi, j'ai fait mon marathon il y a 2 mois. C'était mon premier marathon. Et donc, voilà, tout le monde m'a dit, ben, en effet, tu verras, moi, j'avais des grosses chaussures. J'ai pas marché pendant 15 jours. Enfin, pendant une semaine, j'étais vraiment pas bien. Les escaliers. Et en fait... Alors oui, j'ai couru le dimanche, le lundi matin, forcément, j'étais un peu logique, hein. Et le mardi, ça roulait, quoi, en fait. J'ai pas eu plus de séquelles, entre guillemets, hein, qu'un coureur, en fait, maximaliste, ou mon corps est habitué à ça, en fait. Donc, du coup, j'ai eu pas du tout, et encore, j'ai presque eu moins mal que certains, quoi.
Oui, alors ça c'est un constat que j'ai pu faire parce que moi après le marathon de Paris, donc moi j'ai couru en escalante quoi, un coefficient de maximalisme de 76% sur 100, hein, donc par rapport aux Five Figures qui sont à 95, 96 et Sandal doit être à 97 peut-être et nos pieds à 100%, voilà. Moi le lendemain j'étais mais alors frais, mais vraiment je marchais sans aucun problème. Alors qu'on m'avait promis ces trucs-là, on m'a dit oui le lendemain du marathon de Paris les gens ils peuvent pas prendre le métro, ils arrivent pas à descendre les escaliers, t'arriveras pas à conduire, enfin tout ça, on m'avait tout promis ça. Et effectivement, moi, le constat, c'est que c'était pas si catastrophique que ça, et qu'en tout cas, j'étais beaucoup moins cassé qu'à des époques où je faisais des courses, des fois même des petits kilométrages. T'as parlé de marathon quand même, mais il y a 2 mois. T'as trouvé un marathon il y a 2 mois?
Alors, j'ai trouvé un marathon. En fait, donc, j'avais trouvé un marathon qui, du coup, a été annulé. C'était le marathon de Metz, hein, a été annulé donc le jeudi pour le dimanche, quoi. Et puis, voilà, moi, c'était mon premier marathon. Enfin, voilà, t'as fait des marathons, tu sais ce que c'est qu'un premier marathon. Je veux dire, t'es dans une prépa, t'es dans une grosse prépa pendant 3 mois. Là, j'avais vraiment pris un coach. Voilà, je m'étais mis dans vraiment de réelles conditions. Parce qu'avant, j'avais jamais eu de plan d'entraînement. Hein. Je faisais toujours mes fractionnés, mes petits trucs. Et là, je me suis dit, allez, tu prépares un marathon qui va vraiment. Et puis, en plus, là, pour le coup, donc, la fatigue accumulée, en fait, 15 jours avant le marathon, je me trouve coincée du dos, bloquée. Donc, là, je suis sous piqûre 2 fois par jour. Donc, forcément, tout le monde me dit « Oui, de toute façon, ton marathon, tu ne le courras pas. » J'ai dit « Ok, peut-être. » Mais donc, je suis allée voir mon chiro, je suis allée voir un ostéo. J'ai dit « On verra le lundi, donc une semaine avant. Si le lundi, je suis en forme, de toute façon, je courrai mon marathon le dimanche. » En effet, le lundi, ça a commencé à aller mieux. Et le mercredi, j'étais OP. J'ai refait une sortie le jeudi, voilà, pour la sortie de déblocage, on va dire. Et puis donc on m'annonce que le jeudi que le marathon est annulé. Et donc me connaissant, de toute façon ma famille le savait, j'allais le faire, quoi. C'était hors de question que je ne le fasse pas. Donc du coup je l'ai fait en off au bord de la Moselle. Donc là autant te dire que c'est long, hein, quand même. Les lignes droites sont longues. Et puis voilà, j'ai terminé mon marathon dans le temps imparti au départ et ça a été une super expérience. Et bizarrement je pense peut-être meilleure que si tu sais j'avais fait vraiment cette course officielle. Puisque là, tu te dépasses, t'as les amis qui sont là, parce que bon, on avait quand même mis en place un certain passage de ravito tous les 10 kilomètres pour ravitailler en eau. Enfin, c'est vraiment, et puis t'es dans ton monde à toi, et ce moment-là, il est juste unique, quoi. C'est énorme.
Oui, donc t'avais quand même organisé les ravitos, hein.
Alors, du coup, oui. Donc, je suis partie quand même avec mon sac, en bar, tu sais, compote et tout. Voilà, j'avais pu mettre ce qu'il fallait. Par contre, en eau, forcément, tu sais, le coach m'avait dit, faut boire tous les 10-15 minutes. Donc, du coup, ça va, tes flasques, elles diminuent rapidement. Donc, tous les 10 kilomètres, en effet, on me ravitaillait en eau, histoire que je sois pas complètement dans la dèche et à sec. Et ça, vraiment, ouais, c'était top. Je pense que sinon, de toute façon, c'était impossible pour moi, quoi.
Et t'as une question t'as pris le mur?
Alors du coup, voilà. Alors bizarrement, donc ce fameux mur existe. Hein. Alors j'ai été très très bien jusqu'à 30 bornes, vraiment, voilà, dans les allures. Et là, au 32e kilomètre, ouais, je prends mais une barre, ce fameux mur que tout, enfin qu'on m'avait parlé. Et là où tu sais, ton état second, tu te dis mais qu'est-ce que je fais là, quoi. Enfin, et puis alors bizarrement, beaucoup de coureurs avaient fait ce marathon en off. Et en fait, donc déjà, je suis soutenue. J'avais ma femme qui me suivait à vélo. J'avais des amis aussi qui me suivaient à vélo. Donc du coup, ça booste quand même. Et puis en fait, j'ai un coureur qui arrive en face de moi, qui s'écroule au sol. Le pauvre, il a des crampes de dingue. Et lui est tout seul pour le coup. Et en fait, bah, tu vois, il te donne cette impulsion à ce moment-là aussi, en disant, parce qu'il sent que je suis vraiment pas bien. Et il me tape dans la main, il me dit, allez, on y va, tu lâches rien, tu vas finir. Et puis là, bah, de toute façon, voilà, pour tous ceux qui ont fait ce genre d'effort, bah, tu te mets en mode, un peu en mode machine, où finalement, tu as, bah, là, j'ai pas eu besoin de parler à ceux qui me suivent en vélo, tout le monde a compris. Chacun s'est mis loin, devant et derrière. Mmh. Et là, bah, tu te mets dans ta bulle et puis tu finis, quoi. Voilà, tu penses plus à rien, t'es plus là, mais tu finis.
C'est la notion du ici et maintenant. Moi, je suis en train de lire Le Guerrier Pacifique, et notamment, bon, je sais pas si t'as lu ce livre de Dan Millman, qui est vieux, je sais pas, il doit avoir 40 ans, ce livre. Et notamment, c'est sur, il explique, c'est le maître qui explique à son élève un petit peu comment aller plus haut, quoi, hein, s'élever un peu dans les choses. Et lui dit, quoi que tu fasses, maintenant, tu es ici et maintenant. Ouais. Et moi, je l'avais découvert sur le marathon de Paris. C'était, alors moi, mon ici maintenant, c'était mon pied qui était sur la ligne verte, parce qu'à Paris, il y a une ligne verte pour suivre. Et c'était, mon pied était sur cette ligne. Et il devait jamais lâcher cette ligne-là, quoi qu'il arrive. C'était mon ici et maintenant. Tu ferais un pas de plus, un pas de plus, un pas de plus, un pas de plus. Et finalement, ben, voilà, tant que ça passe. Tant que ce sentiment-là passe. Et je sais pas si toi tu l'as vécu, mais moi, le dernier kilomètre, quand même, il était euphorique.
Ah, mais complètement. Alors là, le dernier kilomètre. Alors du coup, t'as toutes les émotions qui arrivent en fait sur ce dernier kilomètre, et mais rien que d'en parler, tu vois, c'est encore, c'est dingue, quoi. Mmh. Et du coup, sur ce dernier kilomètre, parce qu'en plus, enfin voilà, j'ai peu d'amis, mais j'ai des, voilà, bah, comme on dit toujours, ceux qui sont vraiment présents. Et tu vois au bout qu'ils m'avaient fait une ligne d'arrivée, les gars. Enfin, tu vois des pagnons et tout. Enfin vraiment. Et tu les vois quand même au loin. Tu te dis finalement que ce kilomètre est énorme. Bizarrement, pour la première fois, là, tu regardes, tu te dis, mais attends, un kilomètre, c'est pas possible. Enfin, et là, tu as toutes les émotions qui arrivent. Tu te dis, ça y est, je l'ai fait. Et je l'ai fait en sandales aussi, parce que voilà, pour moi, c'était quand même c'était ce but, tu vois. Je l'ai fait, ben, je suis opérée du dos. Tu vois, tout ça aussi, ça arrive en te disant, ben voilà, j'ai pu recourir, et puis je fais ce marathon. Et là, ouais, c'est 500 derniers mètres aussi, là où t'as tout qui monte. Et en fait, t'essaies quand même de pas tout lâcher les émotions, parce que sinon, t'avances plus. Mais du coup, ouais, c'est dingue, quoi. Franchement, c'est énorme.
Tu le dis, hein, c'est là que tu revois ton histoire aussi, hein, finalement, de dire, bah, il y a quoi, 10 ans avant, tu pouvais plus courir, même combien de temps avant, finalement, tu pouvais pas courir?
Oui, j'ai pu vraiment recourir. Donc moi, j'ai 37 ans maintenant, j'ai été opérée à 24 ans. J'ai repris la course à 34 ans à peu près finalement. Donc c'est pas. Et puis, mais à chaque fois que je reprenais, tu vois, j'étais quand même toujours arrêtée. Voilà, je commençais à être bien, boum, ça me rappelait alors. Donc finalement, c'est très récent où bah, mon corps est enfin remis. J'ai aussi appris à l'écouter. Voilà, j'ai fait tout ce travail-là. Mais du coup, oui, c'est finalement très récent, la reprise complète de la course. Donc ouais, tu revois tout ça, tu vois, ton cheminement, il est là, mais oui, ce dernier kilomètre dans chaque course que chaque personne va faire, que ce soit un 10 km, parce que chacun à son niveau, on a ses petits objectifs, et voilà, même voilà, la personne qui va courir 10 minutes la première fois, voilà, tu as tout ça qui arrive, et ces émotions sont, c'est un régal, c'est un pur régal, quoi.
Tu disais que tu étais, donc on parle de dire coureuse minimaliste finalement, est-ce que tu es minimaliste aussi par l'équipement, tu vois, on pourrait parler de montres, de vêtements, tu vois, de choses comme ça, ou c'est, on parlera aussi après des chaussures de ville, hein, parce qu'on parlera de notre marque, mais finalement est-ce que tu crois que le minimaliste c'est juste les chaussures ou c'est finalement l'ensemble de la démarche, ta vision de la course au global?
Alors écoute, pour moi, c'est pas que les chaussures. Voilà. Déjà, je suis dans la vie de tous les jours, je consomme très peu. Voilà, je suis pas une acheteuse, je vais pas m'acheter 40 pulls pour en mettre toujours deux, voilà. Donc déjà ça au départ, c'est quelque chose qui est ça a toujours été comme ça en fait. Donc ça là-dessus c'est déjà acquis. Après bah voilà, pareil pour la course à pied, j'ai commencé avec une petite montre, voilà, parce que ça me suffisait. Et j'ai changé de montre, tu vois, là, parce qu'on me l'a offert, parce que je pense que sinon, je ne me la serais jamais achetée, en fait. Je lorgnais dessus depuis un moment, mais je pense que sinon, elle serait restée, en fait, au magasin. Je me suis dit, oui, attends, tu ne vas pas quand même pas mettre autant d'argent dans une montre. Enfin, voilà, j'étais dans le truc, ce n'était pas possible, quoi. Et voilà, pour le marathon et tout, voilà, j'ai quand même maintenant une montre beaucoup plus, on va dire, performante. Et pareil dans les vêtements, en fait. Dans les vêtements de course à pied, j'ai toujours eu deux shorts, un legging, et de haut, en fait. Mais concrètement, ça me suffit, tu vois. Je n'ai pas besoin d'acheter 50 vêtements. Et au bout du compte, tu ouvres ton placard de running et tu regardes tous tes vêtements. Et de toute façon, tu vas prendre systématiquement les mêmes. Donc, pour moi, c'est vraiment une philosophie de... Finalement, une philosophie de vie. Mes Five Fingers, je les ai toujours usés. J'ai eu toujours une paire. J'avais eu une paire de trail, une paire de route. Et je les use, mais alors quand je te dis jusqu'au trou, c'est jusqu'au trou, quoi, pour le coup. Donc ouais, c'est pour voilà, c'est vraiment une philosophie de vie, tu vois.
D'ailleurs, alors tu parles de route et de trail, tu fais du trail aussi, donc?
Alors, du trail, c'est un grand mot, mais j'ai fait une ou deux courses et j'aimerais bien un peu plus m'y mettre cette année, mais je suis quand même une coureuse de route au départ, quoi.
Tu veux le faire en sandales ou tu veux le faire en Five Fingers, le trail? Comment tu vois le futur?
Je vois le futur en sandales, quoi qu'il en soit. Donc là, bah, j'avais un trail de prévu. C'était le trail des tranchées à Vernin qui, malheureusement, a été il était prévu l'année dernière. Il a de nouveau été reporté. Donc là, je le voyais en Five Finger puisque j'étais encore dans ma période. Et là, je le vois clairement en sandales, quoi.
D'accord. Alors moi j'ai regardé sur le compte Instagram de Panta Sandal. J'ai vu hein, qu'il y a des coureurs qui même des très très bons coureurs en sandales hein, qui vont dans les Alpes, les chemins escarpés, etc. et autres. Donc ça veut dire qu'on peut vraiment passer partout avec. Hein.
Ah mais totalement. En fait tu vas de toute façon ton pied il est habitué, ton pied s'est musclé quand tu es en minimaliste. Voilà, ton pied s'est musclé. Le seul inconvénient que tu peux avoir. Forcément, tu n'as pas de protection. Donc, c'est de taper une pierre ou quelque chose. Voilà, ça, c'est vraiment on va dire, c'est l'inconvénient. Mais tu passes vraiment, vraiment partout, quoi. Alors, par contre, c'est certain, par rapport à certains coureurs qui vont avoir des crampons de dingue, ou voilà, peut-être qu'il y a certains moments où, quand ça va vraiment glisser, ça va peut-être être un peu plus compliqué. Mais en tout cas, ça passe easy, quoi, vraiment.
D'accord, parce que moi je me disais bon sur de la route, je veux bien sur des chemins un peu larges, je veux bien. Mais quand j'ai vu les gars sur les montagnes, etc. Et puis j'ai même vu en fait, j'avais fait des vieilles recherches où j'ai même vu qu'ils couraient l'UTMB a priori avec, hein, donc en sandales. Hein. Ouais. Je me dis mais il y a quand même de la caillasse, les descentes, ça doit glisser, etc. C'est quand même ça me paraissait un peu ardu quoi, l'histoire en fait.
Ouais, mais et ça l'est quand même si tu veux. Mais quand tu vois un gars qui finit comme tu dis l'UTMB, j'avais vu hein, en sandales. Là, récemment, bah, y a un ambassadeur français en Panta qui a fait un 80 km de trail. En plus, dans des conditions, il faisait super froid et tout. Donc, bon, bah, voilà, le gars avait quand même mis une paire de chaussettes donc à doigts, hein, de Five Finger. Et donc, ouais, c'est vraiment faisable, totalement.
Voilà, oui, on peut le dire, hein, on a droit de courir en chaussettes quand même, hein, si on veut, dans ces sandales-là.
Ouais, alors du coup, moi, j'ai quand même mis une paire de chaussettes et ouais, il y a 2-3 jours, là, parce que j'avoue que à 6h du matin, il faisait moins 2. Ouais, ça commençait à piquer. Alors par contre, du coup, j'ai mis ma paire de chaussettes et je suis rentrée, j'ai dit, bah c'est bon, je passe l'hiver comme ça, nickel. Parce que là, bah voilà, ça passe très très bien, quoi.
Alors d'ailleurs, c'est un truc, hein, je le dis pour ceux qui connaissent pas, les chaussettes à doigts... Ça existe, c'est moi j'ai adopté ça depuis pas très longtemps, mais en tout cas je trouve que même dans mes chaussures très classiques, le combo chaussettes à doigts dans mes Altra par exemple pour le trail, parce que sur le trail j'ai fait souvent avec mes Altra parce que j'aime bien la largeur de mes pieds et tout, je sais pas, c'est mon petit confort à moi aussi, et puis je suis fan d'Altra, j'ai découvert quand même que c'était un combo qui était quand même super génial, hein, soyons honnêtes. Je sais pas si t'as une marque ou est-ce que c'est la même marque que tes sandales, est-ce que t'as une marque particulière?
Alors du coup, chez Panta, eux, ils font une paire de chaussettes, mais qui n'est pas à doigts pour le coup, qui s'arrête en fait au niveau des orteils.
Oui, c'est ce que j'ai vu, oui.
Ouais, tu as tout, et bizarrement, ça tient vraiment chaud. Hein. Donc voilà. Et sinon, en sandales, bon bah j'ai la marque Vibram. Mm. ou les Ingini. Là, je vais me prendre pour l'hiver une paire d'Ingini en mérinos, en fait, pour passer l'hiver vraiment, vraiment bien, quoi.
Ouais, c'est ce que j'ai aussi pour mes trails. Hein, c'est ce que j'ai mis aussi dans mes trails. Elles sont très simples, elles sont très faciles à mettre. Le pied va tout seul dedans. Contrairement, et je le dis, alors là, j'ai aucune mal à le dire, Décathlon a des chaussettes à doigts et dedans, je n'arrive pas à rentrer mes orteils, très très mal dans le modèle de trail, alors que j'arrive très très bien dans les autres. Comme quoi, des fois, il vaut mieux y mettre un peu plus d'argent. Des fois, on voit des petites différences. En tout cas, elles sont pas faites pareil. Tu sais, elles sont pas serrées pareil en fait. Hein, c'est une question comme ça. Bon voilà. Après ça c'est mon petit constat. J'ai dit qu'un jour je ferais une vidéo sur ma chaîne YouTube, mais que ça m'obligeait de filmer mes pieds. J'étais un peu. Je voulais pas trop le faire. Non, c'est une blague comme ça, mais c'est vrai que ça fait partie des sujets comme ça, parce que cet été, pour l'anecdote, j'ai cherché, parce que j'avais vu que chez Decathlon, ils faisaient des chaussettes à doigts, et je les ai cherchées partout, dans plein de magasins, ils avaient pu me dire, on est dévalisé, tout le monde en veut, etc. Et quand j'ai réussi à les mettre, et en fait, j'étais un peu déçu, tu vois, par le modèle, alors que les NGG à côté, on a un confort qui est quand même largement supérieur, et c'est vrai que moi, j'aime bien ça. Tu disais, au niveau des sandales, donc toi, tu cours en pantin sandales?
C'est ça.
Il y a d'autres marques qui existent.
Oui, oui, totalement. Il y a Luna Sandal qui est. Alors j'ai testé hein, du coup les Luna, puisque en fait un peu dans le monde de minimaliste, quand tu parlais de Luna en fait, avant que moi j'ai des sandales, c'était un peu la Rolls, tu sais, la Rolls de la sandale. Bizarrement, j'ai pas du tout aimé. Beaucoup trop lourd. Pourtant, j'avais pris un modèle qui était quand même, tu vois, au niveau de la semelle, on était quand même bas. Enfin, j'avais et en fait, le confort était pas là. Enfin, j'ai pas du tout aimé, quoi. L'avantage avec les Panta, c'est que elles sont vraiment très très souples. Et on va dire au bout d'une semaine de pratique, ton pied est réellement moulé dans la sandale. Donc ça, c'est vraiment un réel réel confort. J'ai pas du tout de problème les premiers temps, parce que tout le monde me dit oui, mais au niveau de la sangle, est-ce que ça ne brûle pas? Est-ce que tu n'as pas dans... Alors, non, pas du tout. Il faut juste réajuster les premiers temps, forcément, parce que on n'ose pas trop serrer non plus au départ, mais finalement, ça se porte. Voilà, il faut quand même les serrer. Et puis après, voilà, il suffit de faire 2-3 ajustements, et une fois que ton ajustement est fait, j'ai dû avoir tout au début, alors une toute petite ampoule, vraiment, et en plus sous le pied, donc rien à voir avec. Je pense, tu sais, le temps que mon pied s'habitue aussi au frottement. Mais sinon, vraiment, aucune gêne. Elles sont super confortables.
Faut le dire quand même, hein, c'est que ça coûte... c'est pas donné quand même pour une ceux qui verront ça. Et, alors, si vous avez jamais vu le prix des sandales, allez voir quand même maintenant sur le prix. Parce que je me dis, c'est quoi qui fait c'est, elles sont plus résistantes? La semelle doit être quand même assez dure ou...
Alors, du coup, pour le coup, j'ai pu comparer puisque ma première paire, je l'ai achetée au mois de mai. Mai juin, j'ai fait donc ma prépa marathon, j'ai couru donc non-stop, et donc j'ai fait mon marathon le 18 octobre. Là, je les ai à côté de moi justement. Je peux encore les mettre sans aucun problème. Elles sont moulées pour le coup, voilà, vraiment. Mais t'as pas de trou. Bon, il y a pas de trou. Les sangles, ça tient impeccable. Donc voilà, t'as quand même une résistance. Donc c'est un produit. Et encore, Panta Sandal, on est sur des produits abordables par rapport à Luna. Parce que si tu vas voir les prix des Luna, là, t'as une paire de sandales à 120-130 euros, quoi. Qui, moi, je trouve, pour moi, clairement hors de prix, quoi. Hein. Là, je crois que les Samos, on est à... Alors, je crois qu'on doit être dans les 70-75 euros ou quelque chose comme ça. Hein.
Je crois à peu près dans ces tarifs-là quand j'avais regardé. Parce qu'il y a différentes, faut le dire, il y a différentes semelles. Hein, ça doit jouer sur les épaisseurs, sur la souplesse, j'imagine.
Ou... Ouais, tout à fait, oui. Alors, tu as les Samos, du coup, qui sont... moi, c'est mon modèle fétiche pour la route. Donc là, je parle des sandales de route. Hein. Et puis après, tu as aussi les Kamenis. Alors, du coup, tu n'es pas du tout pareil, même au niveau de la semelle. C'est une semelle, tu sais, un peu en... Je ne sais pas trop comment expliquer ça. Alors, du coup, tu ne peux pas les mettre quand il pleut. Parce que voilà, c'est la semelle et la semelle va quand même glisser. Par contre, ouais, c'est la plus fine des sandales de route. Bizarrement, voilà, moi les Samos, c'est mon modèle fétiche de route. Et voilà, tu as une différence de semelle. Tu as donc généralement deux modèles route, deux modèles trail. Et puis tu as un modèle, alors que moi j'ai pris du coup pour le trail aussi, qui a un modèle qui passe vraiment partout quand tu as de l'eau et des choses comme ça. Tu as une semelle qui est faite pour que ça s'évacue beaucoup plus vite et que ton pied ne glisse pas dans la sandale.
D'accord. Oui, donc il y a quand même un petit peu de technologie, hein, c'est pas ça ressemble, parce que quand on va sur le site, ça ressemble juste à un bout de semelle avec une sangle, on se dit bon, bah quand même qu'est-ce qui fait explique le tarif comme ça? Non, il y a plus de recherche qu'il y paraît quand même à l'intérieur, hein.
Ouais, totalement. Et puis moi j'ai pas mal de contacts avec Panta, là ils sont en train justement de relancer, là ils vont relancer les nouvelles sandales certainement pour l'année prochaine. Ils m'ont envoyé des échantillons. En fait, ils t'envoient des petits échantillons de mini sandales, c'est génial, c'est super bien fait. Et du coup, voilà, c'est très très recherché, hein. Ils cherchent vraiment à concevoir le meilleur de la sandale. Donc, là-dessus, il y a vraiment une technologie qui est très très bien faite, hein.
Alors, là, on a des gens qui vont être convaincus, tu vois, ils vont dire on va essayer, etc. Comment on s'adapte? J'ai envie de dire, comment on fait la phase d'adaptation? Alors, en rappelant que toi, tu viens de la Five Fingers, dont déjà très minimaliste, parce que ceux qui arriveraient de grosses chaussures maximalistes, là, ça sera encore une étape différente, mais comment, finalement, tu t'habitues à courir en sandales?
Alors, du coup, quand tu viens déjà de la Five Fingers, tu cours en minimaliste, donc ton corps, il est fait pour, tes mollets, c'est réglé, voilà, il n'y a pas de souci. Donc, en fait, j'ai pas eu de problème d'acclimatation, c'est-à-dire que j'ai reçu celle-là, j'ai rangé au placard les Five et je suis passée tout de suite en sandales. Voilà, clairement. Après, comme tu disais tout à l'heure, passer du maximaliste au Five Finger ou au drop déjà plus réduit, là c'est autre chose. Et il faut vraiment le faire il faut se renseigner, il faut aller dans une boutique spécialisée, si on peut, une boutique spécialisée de course à pied qui va aussi aiguiller. Faut vraiment, vraiment pas faire n'importe quoi. Puisque fut un temps, les Five Fingers, il y a quelques années en arrière, ça a été un peu aussi un phénomène de mode tout au début. Cette chaussure super légère. Puis voilà, il y avait des gens qui trouvaient ça chouette. Mais en fait, non, il faut vraiment y aller très, très tranquillement.
Oui, surtout qu'on se rend pas compte à quel point on est déformé par la protection, par le drop, hein, avec le talon qui est toujours plus haut sur la plupart des chaussures de course, sur le fait que les mollets travaillent pas du tout de la même manière. Hein, tu disais les mollets, ça s'est fait, mais les premiers jours, les mollets, ça tire énormément, les tendons, ça tire énormément. Je sais pas d'ailleurs si t'as de la préparation physique en dehors de la course, tu vois, est-ce que tu fais du renforcement, du gainage, des étirements, des choses comme ça?
Alors, bizarrement, je devrais en faire. Je ne vais pas le dire à mon coach que j'en ai pas qu'on fait quand même, hein. Maintenant, ce que je fais beaucoup, quand même, donc, ce que j'ai toujours fait quand je fais de la course minimaliste, c'est les massages des mollets. Alors, j'ai jamais eu pour citer la marque Compex ou des choses comme ça. Là, j'en ai eu un pareil, tu vois, parce qu'on me l'a offert. Sinon, je me suis dit oui, alors est-ce que c'est vraiment efficace? Moi, je suis à la bonne vieille méthode. Je prends mon baume, je me masse les mollets tous les soirs et c'est reparti pour le lendemain. Voilà, je prends quand même. Alors, ça, je le faisais pas avant. C'était un gros tort. Je le fais du coup maintenant depuis quelques temps. Et me masser les mollets, c'est très très important. Et justement, au niveau des tendons de chaque côté de la cheville, j'ai tendance à, parce que j'ai beau être habituée à courir en minimaliste, de temps en temps, ça tire quand même un petit peu, tu vois, surtout quand t'es sur des grosses périodes. Donc pareil, un bon massage dessus, histoire de bien bien étirer, et c'est top, c'est parti.
Oui, moi, je dis souvent aussi de regarder un peu le protocole de Stanish, tu sais, qui sont faits spécifiquement pour notamment la prévention des ruptures du talon d'Achille, les choses comme ça, qui sont, c'est assez bête en plus, hein, puis plein de gens l'ont vu avec ses étirements sur des marches, contre des murs, tout un tas de choses comme ça. Mais je pense que quand vous passez dans ces modèles-là, déjà quand on baisse le drop, c'est un cas, et puis quand on passe au minimaliste carrément, c'est encore plus le cas. Je crois que faut vraiment qu'on prenne le temps de muscler. On découvre juste qu'en fait, on a d'autres parties dans le, et c'est chez Altra, elle est très bien expliqué, hein, Sherwin, dans l'épisode sur Altra, c'est pour ça que je renvoie à cet épisode-là, où elle est très bien expliqué que, bon, bah, c'est vrai qu'il y a des parties du pied qui fonctionnent un peu différemment du moment déjà qu'on enlève le drop. Hein, on a le pied qui commence à travailler un petit peu différemment. Et sur mon compte Instagram, j'avais mis des exercices de simple étirement des mollets, enfin de musculation des mollets, c'est juste de se mettre sur la pointe des pieds. Moi, c'est ce que je fais tous les matins, tranquillement dans mon coin. Ce matin, j'en ai fait une trentaine, mettre sur la pointe des pieds, redescendre, etc. J'ai des gens qui l'ont fait pour la première fois, ils m'ont dit « Waouh, ça fait mal
!» Oui, non mais totalement, oui, ça c'est bien ce que tu dis. Moi j'ai deux petites marches en fait, j'ai un petit couloir là, et souvent pareil, tu te mets sur le bout de la marche, puis voilà, tu descends, tu montes pour faire travailler tes mollets. Et de toute façon, quand les gens diminuent en drop, Il y a vraiment un travail à faire. Sur le site de la clinique du coureur aussi, c'est très, très bien expliqué. Ce passage aussi au changement de drop, à la course minimaliste. Voilà, parce que tu peux pas prendre tes chaussures minimalistes, les mettre à tes pieds et partir courir pendant une demi-heure. Je dis bien même une demi-heure, c'est beaucoup trop les premiers temps. Surtout quand tu passes à la Five Finger où il faut vraiment, la transition est très, très longue pour justement éviter. Et je peux en parler puisque j'ai fait un peu comme tout le monde aussi au départ où j'étais tellement bien dans mes Five Finger, j'avais plus mal au dos, qu'en fait, j'ai augmenté un petit peu trop rapidement et la fracture de fatigue au niveau du pied, je l'ai eue. Tu vois, donc je peux vraiment dire, il faut vraiment, vraiment prendre le temps, même si c'est vraiment un confort, c'est super agréable. Voilà, allons-y tranquillement et ton corps te remerciera par la suite.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'après, il faut lui apprendre à fonctionner naturellement. Hein. C'est vrai que l'histoire de marcher pieds nus, c'est un grand débat chez moi avec ma femme, qui me dit « mais t'es toujours pieds nus ». Je dis « oui, mais c'est comme ça que je suis le mieux ».
C'est ça.
Nous, ma fille à la crèche, ils les laissent toujours pieds nus. Alors, il y a plein de parents qui veulent leur mettre toutes les pantoufles et puis les gamins finissent par enlever les chaussures parce que de toute façon, ils en ont marre et ils marchent toujours pieds nus, etc. Mais c'est vrai qu'avec le temps, on perd cette habitude-là. Hein, puis il y a l'éducation qui fait, il y a plein de choses aussi qui font ça. Il y a des gens qui aiment pas marcher pieds nus. Moi, je suis toujours pieds nus ou en tongs encore, tu vois, toute l'année. Mais à la maison, c'est moins froid que de courir en tongs. Mais c'est vrai qu'il y a des habitudes comme ça qu'il faut reprendre hein, quand on va aller sur le minimalisme. Hein, il y a des choses. Alors, d'autres exercices hein, tout bêtes. Moi, j'ai un que je donne le matin, c'est marcher sur les talons aussi. Vous verrez, c'est pas mal. Marcher sur la pointe des pieds. Hein, il y a l'histoire de la marche, marcher sur la pointe des pieds. C'est tout bête. Si on fait ça 3-4 minutes tous les matins dans sa petite petite routine du matin. J'avais fait une vidéo pendant le premier confinement, j'avais dit aux gens de faire ça pendant le premier confinement. C'est aussi un bon moyen hein, voilà, de commencer aussi à préparer le corps pour arriver sur ces types-là de je sais pas comment on pourrait dire, c'est pas un nouvel effort pour le corps, c'est juste qu'il faut qu'il remuscle, qu'il sera habitué à faire fonctionner ça. Et puis un autre truc, mais là par contre moi j'ai pas trouvé la solution, sur le trail, moi la difficulté c'est les descentes. Hein. Je sais pas si toi t'as fait un peu de descente avec, comment tu gères les choses, mais c'est quand même pas si simple que ça.
C'est oui, alors bah justement les descentes c'est compliqué quoi. Oui totalement. C'est l'endroit où je galère le plus on va dire. Hein. Donc oui je te rejoins totalement là-dessus.
Moi j'ai fait des courses sur des trails où je me suis fait doubler par énormément de monde dans les descentes parce que avec les alors autant pourtant sur le plat et sur la descente ça va, c'est sans problème avec les Five Fingers, mais autant en descente. C'est vrai que on les voit. Puis c'est un truc qui se comprend bien, hein, c'est qu'ils arrivent plein talons dans les descentes.
Oui, non, totalement.
Avec des pas très très grands, très larges, etc. Et alors qu'en Five Fingers, on a plutôt une tendance à aller vers l'avant, donc il y a une espèce de bascule à faire qui est parfois un peu impressionnante. Mais alors si on a fait du ski, je pense que ça aide un petit peu. Moi qui ai fait beaucoup de ski, je me rappelle un petit peu, mais je pense que c'est aussi ça. Et puis j'avais découvert que j'avais de nouveaux muscles. Après certains trails et notamment j'ai jamais eu autant de douleurs après des descentes que juste au-dessus des genoux. Incroyable ces douleurs-là et ça aussi ça vient tout simplement que cet engagement-là différent fait que le corps fonctionne totalement différemment. Alors tant qu'on est dans le minimalisme d'ailleurs, on va parler d'une autre marque parce que l'autre jour j'ai regardé sur ton compte Instagram et j'ai vu que tu portais des Vivo Barfoot.
Oui, c'est ça.
Mais en mode, j'allais dire en mode ville.
Oui, totalement, oui. Du coup, j'ai... voilà, parce que étant habituée maintenant à ça, j'ai énormément de mal à mettre une paire de chaussures qui va me serrer le pied. Donc voilà, Vivo Barfoot a cet état d'esprit, donc justement minimaliste, où tu es sur une chaussure, un chausson, on va dire, qui t'enveloppe le pied, mais qui ne te le serre pas, comme chez Altra, comme des choses comme ça. Et du coup, ils ont justement décliné toute une gamme, ville. Donc, on n'est pas sur les chaussures à doigts où tout le monde se retourne sur toi au milieu du centre-ville. Après, moi, je les porte quand même. Mais voilà, du coup, Vivo Barfoot, pour le coup, on a des vraies chaussures d'hiver. Et pareil, c'est un confort. De toute façon, quand tu reçois ta chaussure, ta Vivo, tu la prends, tu la plies dans tous les sens. C'est des chaussures qui sont très, très costauds aussi. Donc, voilà, Vivo Barfoot, c'est un... Pareil, un niveau tarif, c'est quand même assez élevé. Mais alors, ils ont aussi développé tout un côté éco-responsable depuis pas mal d'années. Ils travaillent avec des produits recyclés. Enfin, voilà, ils sont en train de lancer une gamme qui est vraiment très, très chouette. Et pour le coup, voilà, c'est mes chaussures de ville au quotidien.
Tu dirais quoi, finalement ? T'as essayé les chaussures de running chez eux ou pas ?
Alors, j'ai une paire de trail, donc de chez CLSG, où là, tu as du gros crampon, mais alors, voilà, zéro. Enfin, elles sont vraiment, pour le coup, du coup, très dures, puisque tu es sur du vrai trail. Le problème que j'ai avec ce genre de chaussures, et j'ai le même problème chez Altra, c'est qu'en fait, j'ai des pieds très fins. Étant habituée à être en five finger ou en sandales, j'ai un gros problème, c'est qu'en fait, quand je mets ce genre de chaussures, mon pied glisse. Donc du coup, je les ai testées en trail. Alors par contre, pour le coup, là, tu as une adhérence de ton adhérence, elle est dingue. Hein. Franchement, c'est un super produit. Moi, n'étant pas habituée, j'ai tendance à avoir le pied qui bascule dans tous les sens et j'ai peur de me faire une cheville à chaque virage. Alors là, j'ai appris à les mettre un peu plus au quotidien, là, finalement, pendant un moment, juste pour voir. Je me suis habituée, donc je pense que je retesterai. Mais du coup, j'ai un peu de mal sur ce côté où, finalement, alors voilà, c'est le but hein, des chaussures minimalistes comme Altra, c'est que ton pied, justement, il ne soit pas engoncé, on va dire. Et voilà, moi, c'est le seul souci que j'ai là-dessus, c'est que du coup, dès que je ne suis pas dans une chaussure qui me maintient quand même, comme les five fingers ou autant, du coup, je suis embêtée, quoi.
Ouais, alors que moi, le gros avantage pour moi, c'est que moi qui ai des très grands pieds et des pieds qui aiment bien être larges, le chausson large me va très bien. Et alors, chez Vevo Barefoot aussi, moi j'avais regardé un petit peu parce qu'ils ont une gamme Swimrun. Alors même s'ils ont arrêté le modèle qui m'intéressait, ils sont passés sur un modèle qui lui, par contre, il est très haut de gamme hein, au niveau de l'évacuation des eaux, etc. Mais je le dis aussi parce que je leur avais écrit un jour pour leur dire... ça fait un peu cher quand même, j'ai que deux courses de swimrun et encore qu'une course dans l'année, ça fait un peu cher. Et il faut le dire, ils ont aussi une sorte de programme un peu du refurb, ou pas du refurb, mais du déstockage, hein, quand on regarde un peu sur leur site. Et je fais un clin d'œil aussi à John, qui nous écoute en Suisse, qui court en Vevo, alors je sais plus quel modèle. Et c'est vrai que des fois, il y a des bonnes affaires à faire. Il faut surveiller un petit peu sur les si on veut tester, etc. Parce que il y a des... moi, c'est une marque qui me séduit. Hein, que je regarde, etc., et que j'ai envie de tester. Et l'autre jour, je les ai vus à tes pieds, et je dis, oh, ah, mais ça, c'est ce qu'il m'aurait fallu quand je crampahutais dans mes, des cours d'amphi, à faire des cours à droite à gauche, que je finissais avec des mal de pieds, même si mes campers étaient pas mal au niveau semelle large, tu sais, dans genre de marque. Voilà, qui était, moi, je passais ma journée en campers, hein, c'était pas mal. Mais je me dis, Vevo, ça me tente. Ça fait partie des marques aussi qui apportent un peu une nouvelle image, un petit peu aussi de ces chaussures de sport qui, en plus, elles sont jolies, je trouve.
Elles sont super jolies. Et puis je trouve que, moi, je connais la marque depuis un moment maintenant et ils ont une belle évolution. Ils ont une belle politique aussi de, enfin, je trouve vraiment chouette. Là, ils ont lancé aussi pour les gens, donc, qui ont des, un genre de, pas de dépôt vente, mais en fait tu leur renvoies tes chaussures et puis tu sais pareil, tu as un bon d'achat, donc si tu as des chaussures qui sont, donc voilà, je trouve que le concept est bien fait et moi je suis vraiment convaincue par Vevo. Elles sont super confortables et en plus pour le coup oui, elles sont super jolies quoi.
Voilà, c'est-à-dire qu'on passe pas comme un, on voit pas que c'est des chaussures qui sont plus minimalistes que les autres ou quoi que ce soit, ça reste des chaussures plus, j'allais dire, présentables.
Oui, on est d'accord. Quand tu dois les porter au quotidien, maintenant, je bosse dans une boutique de sport, mais donc ça va quand même. Mais si tu dois les porter au quotidien, quelqu'un qui va mettre un costard ou quelque chose, tu vois, t'as l'avantage. Chez Vevo, voilà, ils ont pris ce concept-là et ça, c'est très, très bien parce que personne ne le faisait, de te proposer voilà, de la vraie chaussure de ville minimaliste et ça, c'est super.
Et c'est assez intéressant, c'est vrai. Et moi, je suis un Anglais, donc j'ai perdu le nom là comme ça, mais qui fait des cours qui court en minimaliste, il court pieds nus et en Vevo. Hein, il est partenaire avec eux. On voit un peu le passage. Alors il court sur route quand c'est long avec les Vevo, et puis ensuite quand il va sur les chemins, il court carrément pieds nus. Hein, vraiment, il fait des trucs. Et je vous remettrai le nom dans les notes de l'épisode parce que c'est intéressant. Il a plein d'exercices, notamment pour muscler les orteils. Alors, il masse les orteils dans tous les sens, etc. Justement, pour aussi habituer. Pour ça, que ceux qui sont intéressés par la démarche, je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode parce que il y a plein de petits trucs qu'on découvre aussi quand on creuse un peu ce domaine minimaliste hein, de tout ce qu'on peut faire, comment on peut aussi... réadapter ses pieds, j'ai envie de dire, à la nature.
Tu as un exercice tout simple. Tout le monde a une balle de tennis à la maison. Mmh. Et pareil, le fait de mettre ta balle de tennis, tu sais, sous tes pieds, ne serait-ce que pour ressentir. Et voilà, le pied, il est quand même fait de... voilà, tout part de là, en fait, au départ. Et bah, tu vois, tu vas être sur des zones qui sont un peu plus sensibles que d'autres. C'est vraiment, vraiment chouette. Et puis, le fait, tout simplement, comme tu dis, bah, en fait, tu es posé dans ton canapé, tu regardes la télé, et ben bah, bouge tes orteils, quoi, en fait. Serre, desserre, enfin, c'est bête, mais du coup, ça va aussi permettre de muscler le pied. Et ça, voilà, et en plus, tu peux le faire quasiment dans la journée, tu as un moment où tu peux le faire.
Oui, alors j'ai retrouvé le nom, c'est Tony Riddle, The Natural Lifestylist. Voilà, vous pouvez aller voir, je vous mettrai le lien. Qui est un Anglais et qui cet été, il a fait un truc en plus, je sais plus, l'équivalent de 2 marathons par jour pieds nus, enfin, ou en vélo quand il y avait de la route.
Ok.
Voilà, non mais c'est un, et là en ce moment il se trempe dans de l'eau froide, hein. Il a un congélateur sur son, il est dans la logique un peu Wim Hof, tu sais.
Ah ouais, ok, oui, d'accord.
Qui est une autre forme de minimaliste, hein, d'ailleurs. C'est ce que, alors je rigolais parce que ce matin je faisais le podcast privé pour les patrons qui financent le podcast sur Patreon. Et je disais, j'ai pas donné ton nom, j'ai pas dit que c'était toi l'invité, mais je disais tout à l'heure on enregistre un podcast et je dis mon invité elle est minimaliste, etc. Mais même elle court, elle court pas très, je dis elle court en short en plein hiver, etc. Enfin des choses comme ça. Et dans le même temps, j'ai eu le truc, je me suis dit, mais j'ai repensé à Wim Hof, je sais pas si t'as vu, qui courait en short pour faire le Kilimanjaro, etc. Et qui est dans le truc minimaliste, mais supérieur, tu sais, dans le où lui, il va carrément courir en short dans la neige, dans le froid, etc. pour prouver que le froid, etc. C'est pas le genre de truc qui te tente, toi.
Alors, du coup, oui. Non, alors courir quand même dans la neige, je ne sais pas. Après, oui, je cours en short. Je cours en short l'année dernière. J'ai dû porter mon legging 2 fois, quoi. Enfin, oui, je cours en. Ben voilà, toujours pareil, ben, parce que le corps s'adapte en fait, hein, totalement. Alors après, le seul souci qu'il peut y avoir quand même, c'est bien hein, courir en short l'été aussi, l'hiver aussi. Après, voilà, quand tu vas faire des grosses séances ou des choses comme ça, pour les articulations, faut quand même faire quand même un peu attention, surtout quand tu vas faire tu sais, une petite séance de fractionner ou des efforts, voilà, parce que les articulations elles sont quand même beaucoup moins chauffées que. Donc j'ai quand même acheté un. Enfin, on m'a offert un legging là d'ailleurs, parce qu'en fait ma femme m'a vu rentrer avant-hier, j'avais les jambes, mais écoute, j'étais mais rouge, et du coup, le jour elle me dit bon, bah, ça devait être pour Noël, mais je te l'offre en avance parce que je peux plus te voir rentrer comme ça tous les matins avec les jambes. Mais bon, voilà, moi, je suis habituée, donc c'est toujours pareil, tu vois, c'est ton corps. C'est, alors, pareil, quand tu pars, en fait, tout de suite, tu vois, moi, je sors de chez moi, je pars. Le seul souci que je vais avoir avec les, que j'ai eu avec les Five Figures et avec les sandales, c'est quand tu es en attente sur une course. Parce que du coup, tu as fait ton petit échauffement avant, il fait 2-3 degrés, donc c'est, et en fait, tu attends. Et là, bah, forcément, tu n'es pas comme tout le monde, tu n'as pas de chaussettes, tu n'as pas de chaussures qui te couvrent le pied, et là, c'est à ce moment-là où du coup, tu as tes doigts de pied qui commencent. Une fois que tu es parti, du coup, ça prend un peu plus de temps à chauffer. Mmh. Et là, voilà, c'est la partie qui est un peu pénible. C'est ce moment-là, en fait.
Mmh. Faut mettre des chaussettes au départ, un peu dans les marathons, comme tu laisses tes chaussettes dans le sas de départ.
Mais carrément. Et on m'avait dit, justement, prends toujours une paire de chaussettes avec toi, ça peut te sauver. Voilà, c'est ça.
C'est le conseil, voilà, prenez toujours une paire de chaussettes avec vous, on sait jamais, ça peut toujours sauver. Tant qu'on y est dans les trucs à découvrir, parce que c'est aussi, je trouve, une belle initiative, j'ai découvert un truc par biais de ton compte, et là je le vois parce qu'on est en vidéo, même si on diffuse en audio, le bracelet rouge.
Oui.
Est-ce que tu peux nous en parler de ce concept? Parce que je sais pas s'il y a grand monde qui le connaît, et pourtant c'est un concept, je pense, qui est assez intéressant.
Du coup, si on peut, on peut parler de deux marques, si ça te...
Vas-y.
Alors, moi, j'ai commencé avec DataVita, qui, je sais pas si tu connais, du coup.
Pas du tout.
Qui est donc aussi un bracelet. Alors, on n'est pas sur le... On est quasiment sur le même style que le bracelet rouge, hein. Sauf que tu as ton bracelet, dessus, tu as une petite plaque. Où, en fait, quand tu commandes, tu mets donc tes infos, donc ton nom, ton prénom, à date de naissance, les gens à prévenir en cas d'urgence... Et puis, surtout, si tu as bah, des problèmes de santé, un traitement particulier ou quelque chose comme ça. Donc, du coup, voilà, j'ai ce bracelet déjà depuis deux ans maintenant. Alors, ce qui est pas mal aussi chez DataVita, c'est que du coup, ils ont une partie un peu lifestyle aussi. Donc, tu as ceux pour courir qui sont plus légers, où tu peux vraiment prendre l'eau avec. Et puis, une gamme en cuir, donc pour le coup, qui est vraiment, vraiment sympa. Et puis, donc, il y a le bracelet rouge qui s'est lancé il y a pas si longtemps que ça. Où là, en fait, tu vas être sur un QR code. Donc, en fait, quand tu reçois ton bracelet, Donc, tu as un petit abonnement, un abonnement tous les mois qui est de… Alors, attends que je te dise pas, je crois que c'est de 2 euros par mois.
Oui, je crois que c'est 2 euros, j'ai vu.
Ouais, c'est ça, c'est 2 euros. Et donc, quand tu reçois, donc, tu as ta plaque, tu vas sur Internet. En dessous, sous ta plaque, tu as un petit code PIN. Donc, tu l'actives. Et puis, voilà, ton bracelet, il est actif pour tes 12 mois de l'année. Et le jour où, voilà, tu as un souci, hein, ce qui peut arriver à n'importe qui, voilà, ils ont juste à… Ils te scannent ton QR et puis, du coup, ils ont toutes les infos. L'avantage du bracelet rouge, c'est que c'est pas limité au nombre de caractères, du coup, par rapport à une plaque. Donc, pour les gens qui vont vraiment avoir quelques problèmes de santé ou des cachets qu'ils prennent régulièrement, tu peux mettre plus d'infos. Et puis, pour le coup, il est super visible. Donc, il est très, très bien.
Donc, après, le principe, hein, c'est qu'on le commande sur leur… Il y a un site, hein, tout simplement, sur lequel on peut commander. Donc, il faut remplir toutes ces informations sur le site ou ça marche comment après ?
Ouais, en fait, c'est ça. Donc, tu le commandes, tu le reçois à la maison. Alors, ce qui est bien fait, hein, tu as un petit dépliant avec en t'expliquant. Tu retournes sur le site, tu l'actives avec ton petit code PIN qui est sous la plaque. Et puis, voilà, tu rentres toutes tes infos et ton bracelet actif, tu n'as plus rien à faire pendant l'année. Il est renouvelé automatiquement pour l'année d'après, sauf si tu leur envoies un message en leur disant bah, « Écoutez, moi, j'ai pas envie de renouveler, on arrête là. » Et du coup, ils cessent l'abonnement. Moi, je trouve que… Enfin, voilà, moi, c'est… Enfin, moi, j'ai été fonctionnaire de police. J'ai vu pas mal de choses aussi. Moi, je trouve que c'est important d'avoir ce genre de produit avec soi, que ce soit l'un ou l'autre. Parce que, voilà, on n'est jamais à l'abri. Moi, je cours généralement toujours toute seule aussi. Donc voilà, t'es pas à l'abri d'avoir un souci. Et puis ben voilà, le fait que les secours puissent avoir tout de suite un élément, c'est quand même super intéressant.
Oui, et puis il faut le dire parce que maintenant tous les smartphones sont capables de lire un QR code à peu près. Donc il faut pas une application particulière ou je sais pas pour arriver à le déchiffrer. Quoi.
Voilà, c'est ça qui est bien, c'est que comme tu dis, maintenant même sur certains smartphones, tu te mets en mode photo et en fait tu le mets directement et ça te lit ton QR code. Donc là-dessus, c'est très très pratique.
Voilà, donc je vous montrerai les liens aussi parce que c'est vrai que c'est intéressant. J'avais vu ce concept-là. Il y a toujours, on peut quand on part tout seul sur les chemins ou à droite à gauche, on peut toujours se dire ou même en ville, hein, parce que c'est vrai qu'il y a des fois des coins un peu mal famés quand on va courir. On sait pas sur. Puis on peut glisser, on peut tomber, on peut voilà, on peut faire un malaise ou je ne sais pas quoi. Hein, on sait jamais. Donc autant être en mesure d'être secouru. Et c'est vrai que ça fait partie des petits trucs qui peuvent se glisser. D'ailleurs, je pense. Alors c'est peut-être un peu tard pour Noël. Hein, le jour où on va diffuser, mais ça peut être genre de petits cadeaux de Noël, hein, qui pour un coureur en disant bah tiens, t'as tout ce qu'il te faut. t'as 50 t-shirts, mais quand tu pars avec ça.
Ben oui, non mais voilà. Ben moi du coup je les garde au quotidien. Voilà parce que j'ai l'habitude. Parce que comme tu dis, voilà, même en ville. Mais je trouve que c'est important de. Alors voilà, il faut pas non plus être psycho, enfin avoir la psychose. Mais voilà, c'est important d'en avoir un avec soi. C'est super léger, tu le sens pas une fois que tu l'as mis. Le bracelet rouge, voilà, normalement il se met pareil du côté du côté du cœur, puisque généralement le réflexe au niveau des secours, c'est de prendre cette main-là et du coup tu as tout de suite ton bracelet qui est visible.
Mmh. Voilà, donc je mettrai les liens pour que ceux qui sont intéressés, parce que je trouve que c'est vraiment intéressant. J'ai regardé, oui, mais c'est 2 euros, hein, je crois, l'abonnement par mois.
Oui, oui,
voilà,
oui.
Ça fait partie des choses qui sont pas très chères finalement, et ça peut faire un petit cadeau. Voilà, je trouve, hein, on peut rajouter ça dans les idées cadeaux. Pour finir un peu sur cet épisode, est-ce que tu as des projets, des défis, mis à part ce trail là qui avait été annulé, est-ce que tu vises quelque chose?
Oui, j'ai un gros projet pour l'année prochaine. Je voudrais faire un 24 heures. Donc, pendant les 6 jours de France, je ne sais pas si tu connais la course, du coup. Les 6 jours de France, tu as vraiment des gens qui vont courir pendant 6 jours. Voilà, et puis, tu as différentes… Et j'aimerais bien tester ce format 24 heures. Donc, c'est une course qui n'est voilà, qui est pas très connue. Et j'ai envie de te dire, c'est pas mal aussi. Après, il faut toujours être un peu barré pour des fois commencer ce genre de projet là, mais donc tu cours pendant 24 heures autour d'un stade. Voilà, donc en Ardèche, voilà, c'est vraiment mais c'est du coup je suis en train de commencer à regarder un peu mon planning pour l'année prochaine, parce qu'il y a eu ce marathon et puis du coup ça m'a donné envie de me lancer. Donc il y aura sûrement un autre marathon. Alors j'hésite encore, parce qu'il y a donc le marathon de Paris, on a déjà la date, hein. Et puis moi, je suis originaire de Bourgogne et en fait, il y a un marathon à Chablis.
Oui.
Qui est un marathon super festif et tout. et qui tombe justement en même temps que Paris. Mais je pense que je partirais plus du coup sur Chablis pour ce côté festif, ce côté pareil, c'est un marathon, mais t'es au milieu des vignes, tu vois, t'as quand même un esprit qui est. Donc voilà, il y a deux trois choses, mais le plus gros c'est ce fameux 24 heures. Donc là, je suis en train de regarder pour mettre tout ça en place, puisque je crois que normalement, la date est prévue pour l'instant le fin avril.
18 au 24 avril 2021, voilà.
Et du coup, ce sera de toute façon le gros de la prépa du début d'année. Il y aura rien d'autre en début d'année, puisqu'il y aura ce 24 heures. Mais oui, ce 24 heures sandales me fait de l'œil.
24 heures en sandales, oui. Alors, est-ce que t'as idée comment on prépare ça d'ailleurs? Parce que peut-être t'en as parlé avec ton entraîneur en disant on doit faire quoi comme séance pour préparer 24 heures?
Alors du coup, là je l'ai vu il y a pas longtemps, donc je lui ai dit on va se revoir, on va se parler en début d'année. Ben de toute façon, on va être sur des séances où il va falloir apprendre à courir doucement. De toute façon, pour toutes les prépas, tu te rends compte que tu cours toujours trop vite, hein, donc. Et en fait, voilà, ça va être de la séance fondamentale. Donc, quand tu vas faire tes sorties longues, à allure faible pour que le jour de ton 24 heures, un 24 heures, ça se tient sur le long. J'ai toujours été de toute façon, je serai jamais une coureuse ultra rapide. Enfin, voilà, clairement. Hein. Et j'ai toujours été une coureuse justement de, en tout cas quand j'étais jeune, de plus sur du long. Voilà. Ça me plaît plus. Et voilà, donc ce sera des grosses séances comme ça. Bon, il y aura quand même des séances de fractionnés, des séances qui vont faire un peu mal, hein, c'est normal. Mais on sera sur de la séance où il va falloir apprendre à courir doucement, à se faire doubler par les coureurs le dimanche qui vont te dire « Ouais, mais attends, elle avance pas !» Mais c'est pas grave, on va se mettre en mode focus là-dessus.
Oui, sauf que ce qu'ils savent pas, c'est que toi, t'es parti pour courir 4 heures le dimanche, ta sortie longue.
Du coup, voilà, ça va être des... Ouais, c'est ça. Mais ça va être, je pense, ça va être une chouette prépa. En tout cas, ça va être top. J'ai déjà adoré la prépa marathon. Moi, une fois que je suis rentrée dans une prépa, je suis un peu, en mode un peu militaire où on rentre, on pas une séance. Tu vois ce que je veux dire? Donc ouais, j'ai déjà hâte de faire une nouvelle prépa. Ça va être cool, quoi.
J'avais dans mon club, elle court pas avec nous parce qu'elle a des séances qui sont tellement particulières, mais qui court du 24 heures. Je sais pas s'il a pas été championne de France dans sa catégorie même. Et on la voit courir. Un jour, le président a dit, non, par une heure, elle perd 4h30.
C'est ça. Oui, ça va être. Alors, dans le coin, justement, à côté de Metz, là, il y a un couple qui a fait le 24 heures l'année dernière. Et du coup, j'ai vu aussi leur prépa. Et on était là-dessus. Hein. On était sur, du coup, des séances beaucoup plus longues et avec des allures faibles, quoi. Hein, logique. Hein.
Oui, et ça ressemble un peu, je pense, avec aussi, on avait parlé avec Stéphane dans un épisode qui a fait de l'ultra trail. Et celui sur un 113 km, c'est ce qu'il disait, qu'il faisait en fait des week-ends, des gros blocs, 5-6 heures le samedi, autant le dimanche, etc. Et je sais qu'elle fait à peu près le même genre de choses aussi, hein, sur des choses comme ça, où avec toute une logistique qui s'organise pour arriver. Alors elle planque son sac dans des fourrés pour retrouver sa bouteille d'eau, parce que courir 4 heures avec la bouteille d'eau dans le dos... Enfin, un peu les contraintes de ce que tu retrouves d'ailleurs sur ton marathon.
C'est ça.
Parce que finalement, ton marathon que t'as fait, ça sera ça tous les week-ends.
Ouais, ce sera ma sortie longue, quoi. Arrête, ne me fais pas peur. Mais oui, non, ça va être. C'est vraiment. Ça me faisait déjà de l'œil depuis un moment. J'attendais aussi de voir ce que ça allait donner le marathon, comment j'allais récupérer, voilà. Parce que c'est bien de se donner des défis, mais autant se donner quand même des défis qui sont relativement accessibles. Ça sert à rien de se dire, allez, moi, je vais partir sur un 80 et puis arriver là-bas sans prépa, ou voilà. Après, il y en a qui le font, chacun. Moi, je veux quand même arriver sur quelque chose où, la prépa, elle est faite. Je peux avoir une défaillance, le jour J, c'est logique. Hein, le corps, il est fait comme ça. T'es moins reposé, t'as des petits soucis. Mais en tout cas, on va tout faire pour faire ce 24 heures. Et puis, on pourra en reparler début mai.
Ouais. Puis tu le fais pas au même rythme que Kylian Jornet, hein, qui était parti à une vitesse astronomique. C'est ça aussi, hein, c'est que il abandonne, mais sur les 10 heures où il court, il le fait à une vitesse qui est juste dingue.
C'est ça.
On n'est pas dans le même monde, en fait. Moi, je pense qu'il est, on n'est pas fait pareil.
Totalement.
Mais en tout cas, j'ai partagé un jour, j'en parle souvent, tu sais, la fameuse séance qui a beaucoup circulé sur Instagram où il est tourné pendant des heures et des heures sur sa fameuse piste avant d'annoncer vraiment le projet et tout. On se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est pas possible. Quand on voit le projet après, on comprend. Mais ce que les gens voient pas, c'est que, en fait, il y a une petite troupe de gens comme ça qui courent sur des 24 heures, sur des différents parcours, qui adorent ça, le président du Mon Club disait, à propos de cette fameuse coureuse, me disait, elle a essayé de redescendre sur marathon parce qu'elle a voulu remettre sur du marathon pour voir ce que ça faisait. Et en fait, elle est repartie sur 24 heures parce qu'elle préfère l'ambiance des 24 heures où ils se connaissent tous que l'ambiance des marathons où il y a des fois beaucoup de monde, où c'est un peu plus mélangé, etc. Et ils sont en petite groupe, là, ils aiment bien se retrouver entre 24 heures. En plus, ils savent que c'est parti pour 24 heures, cette histoire-là, donc.
Ben oui, c'est ce que tu dises. En fait, c'est des courses où il y a pas beaucoup d'athlètes présents. De ce que j'ai pu voir, en effet, il y a une entraide de fou. Il y a aussi vis-à-vis de l'organisation, c'est super bien fait, quoi. Je veux dire, pour permettre aux gens de se reposer. Ça a l'air vraiment, vraiment d'être une ambiance que tu vas pas forcément, du coup, retrouver sur des grosses courses où il y a je sais pas combien d'athlètes.
Oui, et puis la gestion mentale a l'air d'être totalement différente aussi, hein. C'est ce que je regardais. C'est comme les courses aussi sans fin, là, où c'est le dernier qui finit de courir, qui gagne, tu sais. Il disait notamment, il y a un changement psychologique dans la tête, c'est que, au lieu de regarder les kilométrages, on n'a pas de fin. Il y a pas de la ligne de fin, elle est pas matérialisée pareil en fait dans cette histoire-là. Elle est pas matérialisée sur un kilométrage ou quoi que ce soit. Elle est ailleurs en fait. Ce sera une belle découverte en tout cas.
Oui, ça sera une très très belle découverte et puis voilà, on va faire tout pour que ça se passe bien. Il y a pas de raison et puis après on ira, tranquillement et puis histoire de vraiment profiter. Voilà, le but il est là. Moi je cours pour vraiment prendre du plaisir et profiter donc. Ce sera, quoi qu'il en soit, une très belle expérience.
Eh ben oui, c'est sûr que c'est genre de projet aussi, hein, comme ça, qui, quand on dit être champion du monde de son propre monde, c'est aussi ça, hein, d'aller chercher ces trucs-là. Je mettrai le lien parce que, moi, je connaissais pas SCR, c'est dans Ardèche, hein, les 6 jours,
ouais,
hein,
c'est ça.
Priva. Voilà. Bon, il fera plus chaud qu'à Metz.
Voilà, il fera plus chaud qu'à Metz, en effet. Alors, tu vois, j'espère qu'avec tout ce qui est Covid, là, parce que cette année, ils l'ont décalé en août. Mm. Par contre, pour moi, en août, en Ardèche, franchement, je pense que ça aurait été très, très compliqué. Parce que tu pars à 16h. Mm. Là, tu vois, en avril, fin avril, je pense que niveau température, on sera vraiment bien. Mais alors, fin août, je pense que ça a été violent quand même, hein, pour les coureurs.
Ouais. Mais il peut faire très chaud comme il peut faire frais. Sur toute l'Ardèche, hein, c'est qu'il fait chaud l'été, mais l'hiver, c'est rude, hein, Privas quand même. C'est pas un territoire où il fait... L'hiver, t'y serais bien, franchement. Hein, Parce que les gens, ils ont l'image de l'Ardèche, les fruits, le soleil, etc. Mais l'hiver, c'est comme quand on parlait avec Taz de la Lozère. Hein, il fait froid l'hiver.
Non, mais c'est oui, totalement, totalement. Et moi, je suis pas pour le coup, je déteste le courir quand il fait chaud, quoi. Enfin, il faut que je me fasse violence. Hein. Donc cet été, quand on a quand même eu cette période un peu de canicule là, il a fallu que je parte très très tôt les matins pour pouvoir faire mes séances. Hein.
Mm. Moi aussi, je pars très tôt le matin, mais moi j'adore le chaleur, donc moi c'est juste pour le lever du soleil, c'est mon kiff à moi, c'est le lever du soleil. Bon, on va finir sur un petit jeu, deux trois questions. Alors d'habitude je fais des questions en rafale, alors chaussures préférées, c'est pas la peine que je te demande. vêtements préférés, tiens, si est-ce que t'as une marque dans ton esprit minimaliste justement qui résiste, tu te dis bon, une fois que je l'ai acheté, je vais courir des kilomètres avec sans problème.
Alors là, du coup, j'ai une marque en fait que j'ai testée il n'y a pas longtemps. C'est Hogarun. C'est une marque française de Mérinos. Ce serait ma marque du coup préférée puisque maintenant que c'est testé, c'est approuvé et ça restera ça.
La fameuse montre.
La fameuse montre, donc la Garmin, la 5S.
Qu'est-ce que j'avais? Est-ce que t'as un accessoire? Alors, tu cours souvent avec une casquette d'ailleurs, tiens, et les gens, s'ils te connaissent pas, ils verront que t'as un look. Alors, je sais pas d'ailleurs si c'est volontaire ou si c'est finalement ça s'est fait comme ça, ce look en noir, etc., avec la casquette.
Ça s'est fait. Mais alors, ouais, ma casquette, j'ai bien un accessoire où faut pas que je parte sans, c'est ma casquette.
D'accord.
Ça s'est fait vraiment. Alors je ne porte jamais de casquette en temps normal. Hein. Je ne porte ma casquette que pour courir en plus, vraiment. Donc, ouais, mais du coup, ma casquette, ouais, c'est vraiment, ça s'est fait naturellement. Après, voilà, je porte régulière, bah, je porte souvent du noir, ou je suis pas une colorée de vêtements, donc, ouais, là, du coup, noir et casquette, ouais.
Oui, parce que c'est amusant, parce que c'est ce que je m'étais posé comme question quand j'ai découvert. Je dis, c'est très graphique en fait, la casquette, les lunettes, noires, et puis même les chaussettes, finalement, pour ta sandale, elles sont noires aussi. Donc,
ouais, elles sont noires aussi, oui.
Tout est noir, quoi.
C'était la terre que j'avais dans le... que j'avais rangée, que j'ai ressortie, et c'est vrai qu'elles sont noires aussi.
Et je m'étais dit, tiens, est-ce que c'est recherché? Est-ce que c'est une marque de fabrique, tu vois? Ou est-ce que c'est juste...
Pas du tout, bah, du coup c'est devenu comme ça, mais non, alors pas du tout recherché, c'est tu sais, moi je suis un peu freestyle, mais non, j'avais pas du tout pensé, tu sais, à ce côté graphique, et mais la casquette, ouais, j'avais découvert la marque de casquette, c'était Normal Runner qui fait ça. Et voilà, j'ai des casquettes Try Beer, Run, enfin voilà, c'est des petits trucs fun et j'adore ça.
Ouais. Y a un autre truc, d'ailleurs, dont on n'a pas parlé, c'est que tu cours souvent avec ton chien ou tes chiens, je sais même pas s'il y en a.
Alors il y en a quatre.
Il y en a quatre.
Ouais, alors du coup, j'ai ma partenaire de course à pied. D'ailleurs, on va aller courir tout à l'heure. C'est June. Donc, j'ai trois bergers australiens et un beagle. Et là, j'ai essayé d'alterner un peu dans le confinement, de les faire un peu toutes tourner. Bon, il y en a, c'est compliqué quand même, hein, mais c'était des petites sorties récup. Mais du coup, voilà, j'ai vraiment ma partenaire qui est June. Et j'en ai une autre qui est Naska, qui a le même âge. Elles sont toutes jeunes, tous les deux. Qui, elle, par contre, est constamment en libre. Elle veut pas être en... Elle aime pas tracter, elle aime pas. Donc, en fait, quand je pars avec Naska, elle est détachée.
D'accord. Ça fait partie de tes projets d'avoir des courses. Enfin, ou est-ce que tu en as peut-être déjà fait des courses finalement avec des chiens ou.
Bah, du coup, oui, ça fait partie de mes projets de faire un canicross. Alors, ce que j'adorerais faire, c'est tu as une course dans le Jura. Alors, je n'ai plus le nom exact. Hein, je crois que c'est sur 4-5 jours. Hein, et en fait, tous les jours, tu as une autre épreuve. Alors, forcément, hein, c'est des courses qui envoient quand même. Donc, t'es sur 5 bornes. Par contre, t'as 2-3 courses de 3 km où t'as du dénivelé. C'est le challenge du Jura, mais par contre, je ne sais plus le nom. Et ça, j'aimerais bien le faire avec June une année.
D'accord. Parce que c'est vrai que le canicross, c'est une discipline. Alors, moi, les chiens, c'est pas mes amis. Hein, surtout sur les chemins. Et puis, les gens comprennent pas, en fait, que quand on court, des fois, les chiens peuvent nous embêter. Mais c'est vrai, par contre, que. Quand j'en vois, des fois, j'ai vu sur des trails avec des gens qui étaient tractés en partie, ou je sais jamais qui se tracte l'un ou l'autre au final dans cette histoire-là.
C'est bah, en fait, t'as une complicité. C'est vraiment courir avec. Enfin, moi, je vois quand je cours avec mon chien, t'as cette complicité. Tu vois, quand je suis dans le mal, elle se retourne. T'as vraiment. Tu partages quelque chose d'autre en fait. Et pour le coup, c'est juste génial quoi en fait. Et moi, je le vois dans les montées quand on fait toujours le même parcours, elle me regarde des fois en mode allez, bon, j'en ai marre quoi. Donc une fois en forêt, alors par contre, dès qu'on est en forêt, là, elle envoie même des fois, moi, je suis derrière, elle envoie du paquet quand même. Hein. Mais c'est vraiment génial parce que voilà, elle va quand même se retourner voir, tu vois, si ça va. Et ça, c'est vraiment la complicité, elle est dingue.
Ouais. Bon, je fais un petit clin d'œil à Antoine d'ailleurs qui se reconnaîtra, qui avait posté hier une photo où il courait avec son chien justement très souvent, justement en canicross, etc. C'est vrai que ça mériterait un jour, je ferai un épisode sur le sujet parce que cette complicité de justement comment on fonctionne et c'est super intéressant. Même si moi je connais pas parce que je te dis moi les chiens, on n'est pas amis. Voilà, c'est fait partie de ma jeunesse, une histoire malheureuse dans ma jeunesse dont je ne parlerai pas aujourd'hui.
Je ne veux pas faire ressortir les choses.
Non, mais c'est juste, voilà, ça vient de...
Mais après, je peux te comprendre, même quand on court, moi la première, je veux dire, quand je cours avec June, des fois, même elle, en fait, est devenue craintive, parce que souvent, ben, on a des chiens qui aboient, alors qu'elle ne s'occupe pas du tout des autres, tu vois, elle est dans son truc avec moi, et du coup, c'est même un peu pénible, quoi, de temps en temps, donc je peux comprendre.
Ah, mais ça me rassure. Non, parce que moi, sur mes chemins habituels, il y a des petits mamies, papis, tu sais, qui se baladent avec des petits chiens. Mais ils me disent « Oui, mais il est gentil, mon petit chien, etc. »
Oui, mais bon, il est dans le pied, quoi.
Ouais, mais je dis, ça fait 50 mètres qu'il me court après.
Oui, mais c'est ça, en fait. C'est comme les laisses, tu sais, les laisses en rouleur, là.
Oui.
C'est sympa, ça aussi. Parce que quand t'arrives à côté et puis qu'en fait, ils ne s'occupent clairement pas de leur chien et que t'as la laisse en rouleur qui se déroule avec le chien, là, c'est super sympa aussi, ça.
Voilà, bon, bah, comme ça. On est au moins du même avis là-dessus, comme quoi on peut être propriétaire de chiens ou pas avoir le même avis sur les chiens des autres. Ce qui me rassure beaucoup. Bon, je t'avais dit que j'avais un dernier petit jeu pour finir parce que t'as un joli sapin de Noël derrière toi.
Ouais.
Et moi, je suis venu avec ma papillote, et ceux qui me suivent, ils savent que mon truc à moi, c'est les citations papillotes. Sauf que d'habitude, je lis ma citation papillote. Et là, ce que je vais faire, en fait, c'est je vais te demander ton avis sur la citation papillote du jour, tu vois. Il y a aucun piège, j'ai pas ouvert la citation. Enfin, il y a aucun piège. Je sais pas ce que veut dire la citation, et la dernière fois sur mon podcast, Votre Coach Web, la citation, il m'a fallu je sais pas combien de secondes pour la comprendre. Donc, bonne chance. Mais encore que celle-là, je pense qu'elle est, elle correspond bien, tu vois. Alors là, c'est un coup de bol. C'est Marcel Proust qui disait « Le plaisir de l'habitude est souvent plus doux encore que celui de la nouveauté. »
Oui, mais c'est ça. Le plaisir d'aller courir tous les matins, tu vois. De prendre toujours le même trajet, mais de découvrir toujours ton environnement différemment, en fait. Tous les matins, j'arrive, j'ai un plan d'eau, en fait, juste à côté. Et je prends quand même le temps de m'arrêter. Et tu vois, il n'y a pas un bruit. Et tu découvres chaque jour... Voilà, chaque jour ton environnement. Moi, j'ai l'habitude de et c'est oui, c'est en fait voilà, pour le coup là, on est vraiment sur des habitudes. Quand je vais courir tous les matins, je trouve mes petits papy mamie comme je les appelle, tu sais, qui tous les matins ont leurs habitudes aussi, font leur tour et voilà, on a toujours un mot sympa l'un pour l'autre. Mais ça voilà, c'est la vie quoi, c'est la simplicité, c'est ça suffit en fait, on n'a pas besoin de plus.
Eh ben c'est un magnifique mot de la fin, hein. Des sandales, un short et aller courir tous les matins et découvrir la nature, l'environnement et bah y faire attention aussi parce qu'il faut ça veut dire qu'on y fait attention. Tiens d'ailleurs une question que je dans ma liste musique ou pas musique, podcast ou pas de podcast quand tu cours?
Alors du coup podcast. Là je me suis fait tous les tiens. J'aime bien le podcast aussi. J'avais fait le 93 jours végétarien là de qui était super intéressant. Il y avait un podcast alors justement quand je faisais des sorties longues.
Let's Trail.
Ouais, c'était ça. Ouais. Tout à fait. Très très sympa aussi. Et par contre, quand je fais les grosses séances de fractionné, là, j'ai besoin de. Donc j'ai une playlist fractionnée. Une playlist, c'est ça, un peu de foufou, quoi. Mais voilà, ça j'aime bien.
Oui, l'autre jour, j'ai partagé ma playlist dans la communauté du Hamsters Running Club sur ma playlist de mes courses, de mes dernières courses, et notamment celle qui m'avait accompagné sur la fin du marathon de Paris, mais aussi sur un 5 km. Et j'ai dit, attention, si vous la prenez, ça va vous dépoter les oreilles, quoi.
Ouais, c'est ça. Il faut que ça envoie un petit peu. Et par contre, quand je cours avec June, j'ai pas de musique. Voilà, je veux être attentive à elle et à ce qui se passe autour.
Eh ben voilà, c'est une très belle conclusion en tout cas, ces pensées sur les habitudes, sur la beauté de notre environnement. Si on veut te suivre, où est-ce qu'on peut te suivre? Parce que alors, sur Instagram, bien sûr.
Instagram, c'est ça, ouais, Coxelot57.
Je mettrai le lien, parce que alors moi j'arrive jamais à l'écrire, mais toi tu le dis tellement facilement que... Voilà, donc je mettrai le lien si vous voulez la suivre. En tout cas, vous verrez, puis vous aurez le lien ensuite en plus, parce que t'es ambassadrice pantasandale, hein, on l'a pas dit, ouais. Running minimaliste, marathon 4h30, on l'a pas dit, hein, le temps. Est-ce que c'est un détail finalement le marathon 4h30 ou...
Alors j'avais quand même, j'avais quand même, voilà, dans cet objectif, il était là. Bon, après, voilà, c'était compliqué avec le coach au départ, parce qu'il m'avait dit, voilà, je vais préparer ton plan, tu veux faire en combien de temps? Alors déjà, en fait, je veux le finir. Et puis voilà, j'avais jamais fait de, tu vois, j'étais pas dans des optiques de faire des temps de fou, des choses comme ça. Donc en fait, voilà, on est parti sur 4h30. Et pour moi, c'était quand même important parce que voilà, j'ai cet état d'esprit où quand je m'engage dans quelque chose, et au moment où j'arrête la montre, je suis à 4h30 et 17 centièmes.
Ouf.
Voilà, donc tu vois, donc ça c'était cool.
Quelqu'un dans mon club me dit de toute façon que tu fasses 4h30 et 1 seconde, 2 secondes, tu sais, t'es dedans, hein, c'est...
Non, voilà, c'est ça. Et beaucoup m'avaient dit avant que je parte, mais c'était très bienveillant, en me disant oui, le temps tu t'en fous, faut le finir. Et pour moi c'était quand même ça, je veux dire, si j'avais fait plus, je l'aurais fini. Mais j'avais quand même, tu sais, ce petit truc au fond qui disait... Allez, je l'ai préparé pour ça. En plus, il a été annulé. C'est un truc, il faut le faire. Et du coup, il a été fait comme ça. Je suis contente.
Oui, et puis sans l'ambiance de la foule au départ, ouais, l'arrivée, des encouragements, de la sono qu'il peut y avoir sur le marathon de Paris et un peu de monde, des encouragements. Il y a des trucs comme ça sur certaines courses aussi. Voilà, c'est comme ça. Sur d'autres, moins. Hein, j'en ai discuté avec une copine du club qui m'a dit, elle a fait un marathon où elle était toute seule pendant 25 bornes. où finalement elle est dans la même expérience que la tienne, ouais, sauf qu'elle était avec un dossard, mais finalement l'expérience se retrouve, ce qui veut dire qu'il faut aussi s'y préparer à être coureur tout seul. Autant le marathon de Paris, on ne court jamais tout seul, les grands marathons, autant c'est vrai que les petits marathons, elle m'a dit bah 25 bandes toute seule, je t'ai pas allé pour là-bas pour ça.
Psychologiquement, il faut être prêt là.
Voilà. Mais voilà, c'est notre préparation. Et puis, on te suivra avec attention, en tout cas, tes préparations pour les 24 heures. Ça. Moi, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir quelles sont les séances qu'on fait quand on veut préparer pour 24 heures. Parce que ça me semble tellement long.
Je te rassure, ça me semble très long aussi. Mais ouais, ça va être une belle expérience. Bah, je partagerai ça avec vous, quoi qu'il en soit. Sur les prochaines séances, on va établir tout ça en début d'année, là.
Voilà, et donc on ira suivre ça sur Instagram, on regardera un petit peu toutes ces aventures, on suivra l'aventure aussi des sandales, et puis on regardera si... je sais pas s'il faut te souhaiter qu'il fasse très froid ou pas trop froid, parce que finalement, t'adores le froid, donc je sais pas. Allez, qu'est-ce qu'on te souhaite pour l'année 2021, en dehors de cette histoire de 24 heures ?
Eh ben écoute, juste de pouvoir courir sans être embêté par mon dos, voilà, on va... Ouais, juste ça. Et puis, si on pouvait avoir des courses maintenues, ce serait cool, quoi.
Et ben, on va tous croiser les doigts là-dessus. On croise tous les doigts en même temps. Et c'est ce qui va clôturer notre épisode. Merci beaucoup, Elodie, pour ce chouette épisode. On a découvert des marques, une nouvelle manière de courir hein, pour beaucoup, parce que qui imaginaient pas qu'on pourrait courir en sandales, certains, qui découvrent la course, qui découvrent ce monde-là. Et puis, c'était intéressant hein, de voir aussi l'histoire des bracelets rouges et de ces informations-là, parce que on n'en parle pas assez, finalement, et il y a plein de petits trucs comme ça qui existent et qui sont intéressants à mettre en œuvre. Merci à toi, Elodie. Belle journée, belle fête de fin d'année, en tout cas, et puis belle continuation dans tes projets.
Salut, Bertrand.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.